Chapitre 8. La nuit tomba très tôt sur la cité en ruine d'Endymion. De mon point d'observation, en haut de la tour où je m'étais réveillé au début de cette interminable journée, je contemplais les dernières lueurs d'automne en train de s'étioler pour mourir. Abétic m'avait reconduit dans ma chambre où m'attendaient, étalés sur le lit, des vêtements de qualité mais d'un goût très simple. Pantalon en coton brun fauve, serré au-dessous des genoux, chemise de lin blanc à manches à peine plissées, veste en cuir noir, bas noirs, bottines noires en cuir souple et bracelet de poignet en or. L'androïde me montra également les toilettes et la salle de bain à l'étage en dessous, puis m'indiqua un gros peignoir de bain en coton pendu derrière la porte et réservé à mon usage. Je le remerciai, fis ma toilette, me séchai les cheveux, utilisai pour m'habiller tout ce qui était sur le lit, à l'exception du bracelet en or, et attendit devant la fenêtre que la lumière devienne un peu plus dorée et horizontale à mesure que les ombres glissaient vers le bas des collines entourant l'université. Lorsque la luminosité eut décliné suffisamment pour que toutes les ombres se soient confondues et que les étoiles les plus brillantes du cygne soient devenues visibles au-dessus des montagnes de l'Est, Abétic revint me chercher.
« C'est l'heure ? » demandai-je.
« Pas encore, monsieur. » Mais vous avez exprimé le désir de bavarder un peu.
Ah, c'est vrai,
murmurai-je en faisant un geste en direction du lit, qui était le seul meuble de la chambre. Asseyez-vous, je vous en prie. L'homme à la peau bleue demeura immobile près de la porte.
Je suis très bien debout, monsieur.
Croisant les bras, je me penchai contre l'appui de la fenêtre. L'air qui entrait par la fenêtre ouverte était frais et imprégné de l'odeur du chalme. « Vous n'êtes pas obligé de m'appeler monsieur, » déclarai-je. « Rôle suffira. » J'hésitais. « À moins que vous ne soyez programmé pour vous adresser ainsi au... j'allais dire humain, mais je ne voulais pas donner l'impression de penser que Abétic n'était pas humain. Vous adresser ainsi aux gens ?» achevai-je piteusement. Il me sourit alors.
« Non, monsieur. Je ne suis pas programmé du tout. Pas à la manière d'une machine, en tout cas. »
Hormis un certain nombre de prothèses synthétiques pour augmenter ma force, par exemple, ou bien pour m'offrir une meilleure résistance aux radiations, je ne possède aucun élément artificiel. On m'a simplement appris la déférence pour que je puisse tenir mon rôle. Je vous appellerai Achandimion si vous le souhaitez. Je haussai les épaules.
Ça n'a pas d'importance. Désolé d'être si ignorant sur la question des androïdes.
Un sourire apparut de nouveau sur les lèvres fines de Abétic.
Inutile de vous excuser, Achandimion. Très peu d'humains actuellement en vie ont eu l'occasion de voir quelqu'un de ma race.
Ma race. Intéressant, ça.
Parlez-moi de votre race, lui demandai-je. La biofabrication d'androïdes n'était-elle pas interdite sur le territoire de l'hégémonie?
Oui, monsieur, me dit-il. Je remarquai qu'il était en position de repos militaire et je me demandais s'il avait jamais servi dans une armée quelconque. La biofabrication d'androïdes était illégale sur l'ancienne Terre et sur de nombreux mondes de l'hégémonie, même avant l'Égir. Mais la Pangermie autorisait la production d'un certain nombre d'androïdes exclusivement destinés à être utilisés dans les confins. À l'époque, Hyperion faisait partie des confins.
Aujourd'hui aussi, fis-je remarquer.
Oui, monsieur.
Quand avez-vous été biofabriqué? Sur quel monde avez-vous vécu?
Quelles étaient vos fonctions? Demandai-je.
Mes questions ne vous dérangent pas?
Pas du tout, Achandimion, me dit l'androïde d'une voix douce teintée d'un accent que je ne connaissais pas, soit parce qu'il était d'un autre monde, soit parce qu'il était ancien. J'ai été créé en l'an 26 de votre calendrier, ajouta-t-il.
Donc au 25e siècle de l'ère chrétienne, commentai-je.
C'est-à-dire que vous êtes âgé de 694 ans.
Abétic hocha la tête sans rien dire.
Vous êtes donc né, ou vous avez été biofabriqué, après la destruction de l'ancienne Terre, repris-je plus pour moi-même que pour l'androïde.
Oui, monsieur.
Et Hyperion a été votre première affectation de travail ?
Non, monsieur. Durant le premier demi-siècle de mon existence, j'ai travaillé sur Asquith,
Au service de Son Altesse Royale Arthur VIII, souverain du royaume de Windsor en exil, et également au service de son cousin, le prince Rupert de Monaco en exil. À la mort du roi Arthur, j'ai été légué à son fils, Son Altesse Royale Guillaume XXIII.
Billy le Triste.
Oui, monsieur.
Vous êtes donc venu sur Hyperion lorsque Billy le Triste a fui la rébellion de Glenonite.
C'est cela. En fait, mes frères et moi, nous avons été envoyés en avant-garde sur Hyperion. Ce n'est que 32 ans plus tard que Son Altesse et les autres colons nous ont rejoints. On nous avait dépêchés sur cette planète après la victoire du général Glenonite à Fort Malo. Son Altesse avait alors jugé sage de prévoir un site de repli pour un éventuel gouvernement royal en exil.
C'est là que vous avez rencontré Achsilenus.
Je levai un doigt vers le plafond, imaginant le vieux poète au creux de son réseau de supports de vie ombilicaux. Non, répliqua l'androïde. Mes fonctions ne m'ont pas du tout fait entrer en contact avec lui durant les années d'occupation de la cité des poètes. Ce n'est que plus tard que j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance, à l'occasion de son pèlerinage dans la vallée des tombeaux du temps, 2 siècles et demi après la mort de Son Altesse Royale.
Et depuis, vous n'avez pas quitté Hyperion. Vous avez passé plus de 500 ans sur ce monde.
Oui, monsieur.
Êtes-vous immortel ?
Je savais que ma question était impertinente, mais je tenais à avoir la réponse. Abétique me sourit à sa manière particulière.
Pas du tout, monsieur.
Je mourrai un jour d'accident ou à la suite d'une blessure trop grave pour être réparée. C'est simplement que lorsqu'on m'a biofabriqué, mes cellules et mes systèmes de vie ont reçu une forme nanotech de traitement pulsène en continu, de sorte que je suis, par essence, très résistant au vieillissement et à la maladie.
C'est pour cela que les androïdes sont bleus ?
Non, monsieur. Nous sommes bleus pour la simple raison qu'aucune race humaine connue à l'époque de ma biofabrication n'avait une pigmentation bleue et que mes créateurs jugeaient impératif de nous distinguer visuellement des humains.
Vous ne vous considérez pas comme humain ?
Non, monsieur. Je me considère comme un androïde.
J'eus un sourire à l'adresse de ma propre naïveté. Vous occupez encore une fonction de service, lui dis-je. Pourtant, l'utilisation de toute main-d'œuvre androïde est assimilée à l'esclavage et interdite sur tout le territoire hégémonien depuis plusieurs siècles.
Abétique attendit sans répondre.
N'avez-vous donc pas le désir d'être libre ? Demandai-je finalement. D'être un individu indépendant ? Jouissant de ses propres droits ?
L'androïde s'avança jusqu'au lit. Je crus qu'il allait s'asseoir, mais il se contenta de plier la chemise et le pantalon que je portais avant de me changer. « Je me permets de vous faire observer, Achandimion, me dit-il, que bien que les lois de l'hégémonie soient mortes en même temps que cette dernière, il y a des siècles que je me considère personnellement comme quelqu'un de tout à fait libre et indépendant.
Pourtant, insistai-je, vous êtes toujours au service de Achsilenus et vous vous cachez ici avec les autres. »
Peut-être, mais je fais cela de mon propre gré. J'ai été conçu pour servir l'humanité, et je prends plaisir à le faire.
Vous dites que vous êtes ici par l'effet de votre libre arbitre, insistai-je.
Il hocha la tête avec un sourire. Dans la mesure où le libre arbitre existe vraiment pour chacun de nous, monsieur.
Je soupirai en m'écartant de la fenêtre. Il faisait nuit à présent. Je supposais que le vieux poète n'allait pas tarder à me demander de descendre.
« Et vous avez l'intention de rester ici à vous occuper de ce vieillard jusqu'à sa mort ? »
murmurai-je.
« Non, » répliqua l'androïde. « Pas si j'ai mon mot à dire sur la question. »
Surpris, je haussai un sourcil en me tournant vers lui.
« Vraiment ?
Et où aimeriez-vous aller si vous aviez votre mot à dire ? » « Si vous choisissez d'accepter la mission dont vous a parlé Achsilenus, monsieur ? » J'aimerais beaucoup vous accompagner.
Lorsque je retournai à l'étage supérieur, je constatai que ce n'était plus une infirmerie, mais une salle à manger. Le lit flottant en mousselové avait disparu, les moniteurs de surveillance médicale n'étaient plus là, les consoles de communication étaient absentes et le plafond était à ciel ouvert. Je levai la tête pour localiser les constellations du cygne et des jumelles avec l'œil exercé d'un ex-berger.
Des braseros montés sur de hauts trépieds étaient disposés devant chaque vitrail, ajoutant à la salle une lumière et une chaleur agréables. Au centre, les consoles étaient remplacées par une table à dîner de 3 mètres de long. La porcelaine, l'argenterie et le cristal luisaient à la lumière vacillante des bougies de 2 somptueux candélabres. Le couvert était mis aux 2 extrémités de la table. À l'une d'elles, Martin Silenus attendait, déjà assis sur une chaise à dossier haut. C'était à peine si le poète était reconnaissable. Il semblait avoir rajeuni de plusieurs siècles depuis que je l'avais quitté. Ce n'était plus une momie à la peau parcheminée et aux yeux enfoncés, mais un simple vieillard assis à sa table de salle à manger, et un vieillard affamé, à en juger d'après son regard. En m'approchant de mon siège, je remarquai la présence discrète sous la table d'un goutte à goutte et de plusieurs filaments reliés au moniteur. Cela mis à part, cependant, l'illusion d'avoir devant moi quelqu'un qui venait d'être ressuscité d'entre les morts était presque parfaite. Silenus laissa entendre un gloussement en voyant mon expression.
« Je n'étais pas à mon avantage quand vous m'avez vu cet après-midi, Roland Dimion, »
me dit-il d'une voix râpeuse.
« Je sortais à peine de mon cryosommeil. »
Il me fit signe de m'asseoir. « Vous étiez en état de fût cryotechnique, » demandai-je stupidement en dépliant ma serviette de lin pour la poser sur mes genoux. Il y avait des années que je n'avais dîné à une table aussi raffinée. Le jour où j'avais été démobilisé de la garde nationale, j'étais entré dans le meilleur restaurant du port de Grande Chaco, dans le sud de la péninsule de la Serre, pour commander un repas somptueux qui avait englouti toute ma dernière paye. Mais cela valait le coup.
« Évidemment !»
répondit le poète.
« Qu'est-ce que vous croyez? Vous connaissez un autre putain de moyen de survivre pendant des siècles ?»
Il gloussa de nouveau.
« Il ne me faut que quelques jours pour devenir opérationnel après avoir été décongelé. Mais il est vrai que je n'ai plus mes 20 ans. »
Je pris une profonde inspiration. « Si je puis me permettre de vous poser cette question, monsieur, quel âge avez-vous exactement » demandai-je. Le vieux poète m'ignora. Il fit signe à l'androïde qui attendait. Ce n'était pas abétique. L'androïde inclina la tête en se tournant vers l'escalier, et plusieurs de ses semblables arrivèrent en silence, chargés de plats. L'un d'eux me remplit mon verre d'eau. Abétique vint présenter une bouteille de vin à Silenus, qui hocha la tête. L'androïde déboucha la bouteille, montra le bouchon à son maître, et poursuivit le rituel en lui versant un fond de vin dans son verre pour qu'il le goûte. Le vieux poète prit une gorgée dans sa bouche, la retourna plusieurs fois contre sa langue et son palais, l'avala et laissa entendre un grognement. Abétique considéra cela comme un signe d'assentiment et nous remplit nos verres. Les hors-d'œuvre furent servis, 2 pour chacun de nous. Je reconnus le yakitori, ou poulet grillé au charbon de bois, et le carpaccio d'aragula au bœuf élevé sur manne. Silenus se servit, en plus, une portion d'un sauté de foie gras enrobé de feuilles de mandragore, dans un plat posé sur la table à côté de lui. Je pris la luxueuse pique en argent où le yakitori était enfilé en brochette et y goûtai. C'était tout à fait excellent. Martin Silenus devait avoir au moins 800 ou 900 ans. Ce devait être le plus vieil humain vivant à l'heure actuelle. Mais le salaud avait un sacré appétit. Je vis l'éclat de ses dents blanches parfaites tandis qu'il attaquait le carpaccio, et je me demandais fugitivement si c'était des prothèses ou des substituts aérénés. Probablement ces derniers. Je m'aperçus que j'avais très faim. Ma pseudo-résurrection, ou l'exercice lorsque j'avais grimpé dans la tour du vaisseau, m'avait mis en appétit. Durant quelques minutes, il n'y eut aucune conversation. Les seuls bruits que l'on entendait étaient les pas feutrés des androïdes qui nous servaient, les craquements des flammes dans les braseros, le souffle irrégulier du vent nocturne au-dessus de nos têtes et nos bruits de mastication. Lorsque les androïdes reprirent nos assiettes à hors d'œuvre et nous apportèrent des bols fumants de bisque de moule, le poète s'adressa à moi.
« Il paraît que vous avez fait la connaissance de notre vaisseau aujourd'hui. »
« C'est exact. C'était le vaisseau personnel du consul ?»«
Bien entendu. »
Silenus fit un geste à l'intention de l'androïde et on nous apporta du pain qui venait de sortir du four.
Son odeur se mêlait aux vapeurs de la bisque et aux senteurs de feuilles d'automne apportées par la brise.
C'est ce vaisseau que vous voulez me faire utiliser pour sauver la fillette ?
Je m'attendais à ce que le poète me demande alors de prendre ma décision. Mais il se contenta de murmurer
« Que pensez-vous de la Pax à Chandimion ?»
Je clignai des yeux, la cuillère de bisque devant ma bouche.
« La Pax ?» répétai-je.
Il attendit sans rien dire. Je posai la cuillère et haussai les épaules. « Pas grand-chose, à vrai dire, » murmurai-je.
« Pas même depuis que l'une de ces cours de justice vous a condamné à mort ?»
Au lieu de lui faire part de la pensée que j'avais eue avant, selon laquelle ce n'était pas à l'influence de la Pax que je devais ma condamnation, mais plutôt au type de justice expéditif qui régnait sur un monde frontière comme Hyperion, je répondis simplement « Non, la Pax n'a rien à voir avec la plupart des événements qui ont marqué mon existence. » Le vieux poète hocha la tête et porta une cuillère de bisque à ses lèvres avant de demander.
« Et l'église ?»«
L'église ? » ?»«
N'a-t-elle rien à voir non plus avec votre existence ?»«
Je ne crois pas, non. » Je me faisais un peu l'effet d'un adolescent intimidé, mais ces questions me paraissaient secondaires par rapport à celles que j'attendais et à la décision que j'étais censé prendre.
« Je me souviens de la première fois que nous avons entendu parler de la Pax, »
me dit-il.
« Quelques mois à peine s'étaient écoulés depuis la disparition des nés. La flotte de l'Église est arrivée en orbite, et ses troupes ont aussitôt occupé Kitts, Port-Romance, Endymion et l'Université, ainsi que les ports spatiaux et toutes les autres cités suffisamment importantes. » Puis les glisseurs de combat ont décollé, et nous avons compris que c'était après les cruciformes du plateau du Pignon qu'ils en avaient.
Je hochai la tête. Rien de tout cela n'était nouveau pour moi. L'occupation du plateau du Pignon et la recherche des cruciformes avaient représenté le dernier grand pari d'une église moribonde et les débuts... Merde. Près d'un siècle et demi s'était ensuite écoulé, avant que les vraies troupes de la Pax arrivent sur Hyperion, pour ordonner l'évacuation d'Endymion et des autres villes voisines du plateau.
Mais les vaisseaux qui ont relâché ici pendant la période d'expansion de la Pax,
continua le poète,
il fallait entendre les récits qu'ils nous amenaient. Ceux des accomplissements de l'Église depuis Passem jusqu'au vieux monde d'Uretz, puis ceux des colonies des confins.
Les androïdes retirèrent les bols de bisque et revinrent bientôt avec des plats de volaille en sauce à la moutarde, et un gratin de manta du fleuve Canse agrémenté d'une sauce mousseline. « Du canard ?» demandai-je. Le vieux poète exhiba ses dents reconstituées en un sourire malicieux.
« Cela m'a paru approprié après vos petits ennuis de la semaine dernière. »
En soupirant, je touchai du bout de ma fourchette la chair tendre de la volaille. Des vapeurs humides montèrent à mes joues et à mes yeux. Je songeais à l'impatience frétillante d'Izzy au moment où les canards s'étaient approchés des eaux libres. J'avais l'impression que cela s'était passé une vie plus tôt. Je regardais Martin Silenus et essayais d'imaginer ce que cela donnerait si j'avais à me débattre avec des siècles de souvenirs. Comment pouvait-on demeurer sain d'esprit avec des vies entières accumulées dans son esprit ? Le vieux poète était en train de me sourire à sa manière particulière, et je me demandais, une fois de plus, s'il était vraiment saint d'esprit.
C'est ainsi que nous avons entendu parler de la Pax, en nous interrogeant pour savoir à quoi cela ressemblerait quand ces gens viendraient s'installer ici,
continua le vieux poète.
Une théocratie impensable durant les siècles de l'hégémonie. La religion était alors purement une question de choix personnel. J'appartenais à une douzaine de dénominations différentes, et j'en ai même inventé quelques-unes à l'époque de ma célébrité littéraire.
Il tourna vers moi ses yeux brillants.
Mais vous savez déjà tout cela, naturellement, Roland Dimion. Vous connaissez les cantos.
Je goûtais à la menta sans rien dire.
« La plupart des gens que je connaissais étaient des chrétiens zen, »
continua-t-il.
Plus zen que chrétien, naturellement, mais pas trop de l'un ni de l'autre, en vérité. Les pèlerinages individuels étaient marrants. Les hauts lieux de pouvoir, découvrir son propre point de Baedeker, toutes ces conneries.
Il gloussa.
L'hégémonie n'aurait jamais imaginé qu'elle aurait un jour quelque chose à voir avec la religion, naturellement. La seule idée de mélanger la politique avec les croyances religieuses était quelque chose de barbare. On ne pouvait trouver cela qu'à Comriade ou sur un quelconque désert planétaire des confins. C'est alors que la Pax est arrivée avec son gant de velours et son cruciforme d'espoir.
La Pax ne gouverne pas, murmurai-je. Elle conseille.
Précisément,
fit le vieil homme en pointant sa fourchette sur moi pendant que Abétic remplissait son verre.
La Pax conseille, elle ne gouverne pas. Sur des centaines de mondes, l'Église administre ses fidèles et la Pax les conseille. Mais bien sûr, si vous êtes un chrétien et que vous désirez être régénéré, il n'est pas question que vous ignoriez les conseils de la Pax ni les chuchotements de l'Église, n'est-ce pas ?
Je haussai de nouveau les épaules. L'influence de l'Église était une constante de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvenais. Pour moi, il n'y avait là rien d'extraordinaire.
Mais vous n'êtes pas un de ces chrétiens qui souhaitent la régénération, n'est-ce pas, Achandimion ?
Je regardais alors le vieux poète, et un terrible soupçon naquit en moi. Il a arrangé mon simulacre d'exécution et m'a fait transporter ici, alors que j'aurais dû officiellement être immergé dans l'océan. Il a de l'influence auprès des autorités de Port-Romance. Se peut-il qu'il ait dicté ma condamnation au juge, que tout cela n'ait été qu'une sorte de test ?
La question,
poursuivit-il, ignorant mon regard de basilic,
est de savoir pourquoi vous n'êtes pas chrétien. Pourquoi ne voulez-vous pas renaître ? N'aimez-vous donc pas la vie, Roland Dimion ?
J'aime la vie, murmurai-je.
Mais vous n'avez pas accepté la croix. Vous n'avez pas accepté le don de la vie prolongée.
Je posai ma fourchette. L'un des serviteurs androïdes crut que j'avais fini et me retira mon assiette, dont je n'avais pratiquement pas touché le contenu. Je n'ai pas accepté le cruciforme, rectifiai-je. Comment lui expliquer les suspicions entretenues par mon clan de nomades à travers des générations où nous avions été expatriés, les étrangers, les indigènes sans point fixe ? Comment lui expliquer l'indépendance farouche des gens comme Grandame ou ma mère ? L'héritage de rigueur philosophique et de scepticisme intrinsèque que m'avaient légué mon éducation et mon environnement familial. Je n'essayais même pas. Martin Silenus hocha cependant la tête comme si je lui avais donné une explication.
Vous voyez dans le cruciforme autre chose qu'un miracle offert aux fidèles grâce à la bienveillante intersection de l'Église,
me dit-il. J'y vois un parasite. Je fus moi-même surpris par la véhémence que j'avais mise dans ma voix.
Vous avez peut-être peur de perdre votre virilité,
fit le poète de sa voix éraillée. Les androïdes nous apportèrent deux signes sculptés dans du mocha au chocolat et aux truffes. Je ne touchais pas aux miens. Dans les Cantos, le prêtre pèlerin Paul Duré raconte comment il a découvert la tribu isolée des Bicurins et comment ils ont appris à survivre durant des siècles grâce au symbiote cruciforme offert par le Gritch légendaire. Le cruciforme les ressuscitait à peu près comme il le fait pour nous aujourd'hui, à l'ère de la Pax. À cette exception près que, dans le récit du prêtre, les effets secondaires comportaient des lésions cérébrales irréparables au bout d'un certain nombre de résurrections, ainsi que la disparition des organes sexuels et des pulsions correspondantes. Les Bicurins étaient tous des eunuques mentalement retardés. « Ce n'est pas cela, » murmurai-je. « Je sais que l'Église a, d'une manière ou d'une autre, résolu le problème. » Silenus sourit d'une manière qui le faisait ressembler à un satyre momifié.
« La condition préalable est d'avoir communié et d'être régénéré sous les auspices de l'Église, »
murmura-t-il.
« Autrement, si l'on a volé un cruciforme, par exemple, On ne connaît que le sort des Bicuras. »
Je hochai la tête. Des générations entières avaient essayé de voler l'immortalité. Avant que la Pax interdise l'accès au plateau, les aventuriers y venaient pour alimenter leur trafic de cruciformes. Plusieurs symbiotes avaient été dérobés à l'Église. Le résultat était toujours le même, abêtissement et disparition de la sexualité. Seule l'Église détenait le secret d'une résurrection réussie. « Et alors ?» demandai-je.
« Alors, pourquoi l'allégeance et la dîme d'une année sur 10 de service à l'Église ont-elles été un prix trop élevé pour vous, mon garçon ? Des milliards d'individus ont opté pour la vie. »
Je demeurai un bon moment silencieux. Finalement, je répondis à voix basse. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. La mienne est ce qu'il y a de plus important pour moi. Je veux qu'elle reste la mienne. Cette déclaration, même pour moi, n'avait pas grand sens, mais le poète hocha de nouveau la tête comme si je m'étais expliqué d'une manière qui le satisfaisait. Il mangea son cygne au chocolat pendant que je l'observais en silence. Puis les androïdes nous retirèrent nos assiettes et versèrent du café dans nos tasses.
« Bon, » soupira le poète. « Avez-vous réfléchi à ma proposition ?»
La question était si absurde que je dus réprimer une envie de rire. « Oui, » répondis-je finalement, « j'y ai réfléchi. »«
Et alors ?»
Mais alors, j'ai quelques questions à vous poser. » Martin Silenus attendit. Qu'ai-je à gagner dans tout ça ? Demandai-je. Vous parlez des difficultés que je rencontrerais si j'essayais de refaire ma vie sur Hyperion. Pas de papier d'identité et tout le reste. Mais vous savez très bien que je suis parfaitement à l'aise dans les régions désolées. Il me serait mille fois plus facile de me cacher dans les marais que de traverser l'espace avec votre gamine à la remorque. Et d'ailleurs, pour la Pax, je suis mort, ils ne me cherchent pas. Je pourrais rejoindre ma famille sur la lande et rester avec mon clan sans être inquiété. » Martin Silenus hocha la tête. Au bout d'un moment de silence, je demandai « Donnez-moi une seule raison d'accepter votre offre insensée. »
« Vous avez envie de devenir un héros, Rolandimion, »
me dit le vieux poète en souriant. Je soufflai bruyamment en signe de dérision et posai les deux mains sur la nappe devant moi. Mes doigts étaient lourds et calleux, ils semblaient déplacés sur ce beau linge.
« Vous voulez devenir un héros ?»
répéta le poète.
« Vous voulez faire partie des rares humains qui font l'histoire. Vous n'avez pas envie de l'avoir coulé autour de vous comme l'eau autour d'un rocher. »
« J'ignore de quoi vous parlez. » Ce n'était pas vrai, naturellement. Mais il n'avait aucun moyen de savoir à ce point ce qu'il y avait en moi.
« Je vous connais parfaitement bien, Rolandimion. »
Curieusement, il semblait répondre à mes pensées plutôt qu'à ma dernière remarque. Je dois dire ici que je n'ai pas envisagé une seule seconde que le vieux poète pût être télépathe. Pour commencer, je ne crois pas à la télépathie, ou plus précisément, je n'y croyais pas à l'époque. Ensuite, j'étais plutôt intrigué par les potentialités d'un être humain qui a vécu près de 1000 années standard. Même s'il était fou, me disais-je, on pouvait penser qu'il avait eu le temps d'apprendre à lire les expressions du visage et autres signes corporels au point que cela ne faisait pratiquement plus aucune différence avec la télépathie. Peut-être avait-il simplement essayé de deviner. « Je n'ai aucune envie d'être un héros, » lui dis-je d'une voix placide. « J'ai vu ce qui arrivait aux héros quand ma brigade a été envoyée se battre contre les rebelles sur le continent sud. »«
Ah, Ursus, »
murmura-t-il.
« L'ours polaire septentrional, la plus inutilisable de toutes les masses de boue et de glace d'Hyperion. » J'ai eu connaissance, en effet, de quelques rumeurs de troubles dans cette région.
La guerre là-bas avait duré 8 années d'Hyperion et tué des milliers de paysans comme moi qui avaient été assez stupides pour s'enrôler dans la garde nationale. Le vieux poète n'était finalement pas si malin que j'avais tendance à le croire.
Les héros, pour moi, ce ne sont pas les imbéciles qui se jettent sur les grenades à plasma,
me dit-il en léchant ses lèvres fines d'un coup rapide de sa langue de lézard.
Ce sont les gens dont les prouesses et les accomplissements sont si légendaires qu'ils sont honorés comme des divinités. Le héros, au sens littéraire, est le protagoniste qui accomplit une action d'éclat, celui dont le tragique point faible consommera sa perte. »
Le poète se tut et m'observa avec attention. Mais je me contentais de lui rendre silencieusement son regard.
« Pas de point faible tragique ?»
me demanda-t-il finalement.
« Pas de goût pour les actions d'éclat ?»
« Je n'ai pas envie d'être un héros, » répétai-je. Il se pencha sur sa tasse de café. Quand il releva la tête, une lueur malicieuse brillait dans ses yeux.
« Où allez-vous vous faire couper les cheveux, mon garçon ?»«
Je vous demande pardon. » Il passa de nouveau le bout de sa langue entre ses lèvres.
« Vous m'avez bien entendu. Vous avez les cheveux longs, mais ils ne sont pas désordonnés. Qui est votre coiffeur ?»
Je soupirai, puis murmurai. Parfois, lorsque je reste longtemps dans les marais, je les coupe moi-même. Mais à Port-Romance, je vais généralement chez un petit coiffeur de la rue d'Atou.
« Ah !»
fit Silénus en se laissant aller en arrière contre le haut dossier de sa chaise.
« Je connais bien la rue d'Atou. Elle se trouve dans le quartier des Noctambules. J'ai plus une impasse qu'une véritable rue. Il y avait un marché dans le temps où l'on vendait des furets dans des cages dorées. Il y avait aussi des barbiers installés sur le trottoir. Mais la meilleure boutique de coiffeurs appartenait à un vieil homme nommé Palani Wu. Il avait 6 fils, et chaque fois que l'un d'eux atteignait sa majorité, il ajoutait un nouveau fauteuil à son salon. »
Il leva les yeux plissés vers moi, et je fus frappé une fois de plus par la force de la personnalité qui s'y reflétait.
« C'était il y a un siècle, » conclut-il.
« Je me fais couper les cheveux chez Wu, » déclarai-je. L'arrière-petit-fils de Palani Wu, Kalakaua, est le propriétaire actuel de la boutique. Elle a toujours 6 fauteuils.
« Ouais, »
fit le poète en hochant la tête.
« Les choses ne changent pas beaucoup sur notre vieil Hyperion, n'est-ce pas, Roland Dimion ?»«
C'est à cela que vous vouliez en arriver ?»«
En arriver ?»
fit-il en écartant les mains, comme pour me montrer qu'il n'y cachait rien.
« Je ne veux arriver nulle part, mon garçon. Oh, simple conversation. Cela m'amuse de penser aux figures historiques mondiales, aux héros des mythes futurs, en train de payer pour qu'on leur coupe les cheveux. C'est une chose qui m'a toujours frappé, d'ailleurs. Depuis des siècles, ce décalage étrange qui existe entre la substance des mythes et celle de la vie de tous les jours. Savez-vous ce que signifie Datu, au fait ?
Je battis des paupières devant ce brusque changement de direction. « Non, » murmurai-je.
« C'est un vent venu de Gibraltar et chargé d'un merveilleux parfum. Certains artistes et poètes parmi les fondateurs de Port-Romance devaient se dire que le chalme et le vort qui couvraient les collines au-dessus des marais exhalaient des senteurs délicieuses. Savez-vous ce qu'est Gibraltar, mon garçon ?»«
Non. » »«
Un gros rocher sur la terre, »
fit le vieil homme en exhibant de nouveau ses dents.
« Vous remarquerez que je ne dis pas l'ancienne terre. »
Je l'avais remarqué.
La terre, c'est la terre, jeune homme. J'y ai vécu avant qu'elle disparaisse. Je suis donc bien placé pour le savoir.
Cette pensée me donnait le vertige.
Je veux que vous la retrouviez,
me dit le poète, les yeux brillants. La retrouver, vous parlez de la terre ou de cette fille aînée ? Il fit un geste de ses vieilles mains osseuses comme pour écarter ma remarque.
« Vous irez avec elle, avec Aînée, et vous retrouverez la terre, Roland Dimion. »
Je hochai la tête. Je me demandais s'il était sage d'essayer de lui expliquer que l'ancienne terre avait été engloutie par un trou noir qui avait été lancé sur elle durant la grande erreur de 08. Mais j'avais en face de moi une créature séculaire qui avait fui ce monde ravagé, et il ne me semblait pas avisé de contredire ses illusions. Il mentionnait dans les cantos je ne sais quel complot du technocentre en guerre pour voler l'ancienne terre, pour la transporter dans l'amas d'Hercule ou dans le nuage de Magellan, les cantos étant de toute manière incohérents, mais tout cela était parfaitement fantaisiste.
le nuage de Magellan était une galaxie située à plus de 160 000 années-lumière de la Voie lactée, si mes souvenirs étaient exacts. Et aucun vaisseau, ni de la Pax, ni de l'Hégémonie, n'avait jamais été envoyé plus loin que notre petite sphère d'influence dans l'un des bras spiralés de notre galaxie. Même avec la propulsion Hawking, qui représentait une exception aux réalités einsteiniennes, un voyage jusqu'au grand nuage de Magellan aurait demandé de nombreux siècles de temps de transit et accumulé des dizaines de milliers d'années de déficit de temps. Même les extros qui savouraient les coins sombres entre les étoiles n'auraient jamais songé à entreprendre pareil voyage. D'ailleurs, on ne kidnappe pas une planète.
Je veux que vous retrouviez la Terre et que vous la rameniez,
reprit le vieux poète.
Je veux la revoir avant de mourir. Voulez-vous faire cela pour moi, Roland Dimion ?
Je fixai le vieillard dans les yeux. Bien sûr, lui dis-je. Je sauve l'enfant des gardes suisses et de la Pax, je la mets à l'abri jusqu'à ce qu'elle devienne celle qui enseigne, je retrouve l'ancienne terre et je vous la ramène ici pour que vous puissiez la voir avant de mourir. Rien de plus facile. Il y a autre chose ?
Oui.
Me dit Martin Silenus sur le ton de solennité absolue qui accompagne généralement la démence.
Je veux que vous découvriez ce que ce putain de technocentre est en train de manigancer et que vous l'en empêchiez.
De nouveau, je hochai vigoureusement la tête. D'une voix sarcastique, je poursuivis la liste de mes tâches héroïques. Je retrouve le technocentre disparu et j'empêche une armée d'IA au pouvoir combiné quasi divin d'accomplir ce qu'elle a décidé. D'accord. C'est comme si c'était fait. Vous n'avez rien d'autre à me demander ?
Si. Vous négocierez avec les extros. Voyez s'ils peuvent m'offrir l'immortalité. Une vraie immortalité, pas cette connerie de régénération chrétienne.
Je fis semblant d'écrire dans un carnet invisible. Extro, immortalité, connerie chrétienne. Comme si c'était fait. D'accord. Rien d'autre ?
Oui. Je veux que la Pax soit détruite et que la puissance de l'Église soit renversée.
Je hochai la tête. 200 ou 300 mondes connus avaient rejoint la Pax de leur plein gré. Des billions d'humains s'étaient volontairement fait baptiser au sein de l'Église. La puissance militaire de la Pax dépassait tout ce que la force de l'hégémonie avait jamais rêvé de devenir lorsqu'elle était au fait de son pouvoir. « D'accord, je m'en occupe, » déclarai-je. « Quoi d'autre ?»«
Vous devez arrêter le Gritch. Je ne veux pas qu'il fasse du mal à Aene, ni qu'il anéantisse l'humanité. »
Là, j'hésitais. D'après le poème épique écrit par le vieillard lui-même, le Gritch avait été détruit par le héros Fedman Kassad dans un lointain futur. Conscient de la futilité d'un argument logique au milieu d'une conversation démente, je mentionnais néanmoins ce fait au vieux poète.
« Je sais !»
glapit-il.
« Mais c'est alors, à des millénaires de nous, je veux que vous arrêtiez le Gritch maintenant !»«
Comme vous voudrez, » répliquai-je. « À quoi bon discuter ?» Martin Silenus se laissa aller en arrière contre le dossier de sa chaise. Toute son énergie semblait envolée. Je regardais de nouveau les replis de peau tannée de cette momie animée, ses yeux enfoncés, ses doigts osseux. Il avait pourtant un regard d'une intensité incroyable. J'essayais d'imaginer la force de sa personnalité à l'époque où il avait tous ses moyens. Mais je n'y parvins pas. Silenus hocha la tête et Abétique nous apporta 2 coupes et une bouteille de champagne.
« Vous acceptez donc, Roland Dimion ?»
me demanda le poète d'une voix grave et sonore.
« Vous acceptez cette mission. Vous sauverez Aene, vous voyagerez avec elle, et vous accomplirez tout ce que je vous ai demandé. »«
À une seule condition, » répondis-je. Silenus fronça les sourcils, mais attendit sans rien dire. « Je veux que Abétique m'accompagne, » déclarai-je. L'androïde était toujours là, la bouteille de champagne à la main. Il regardait fixement devant lui, sans faire le moindre mouvement, sans qu'aucune émotion s'inscrive sur son visage. Le poète parut surpris.
« Mon androïde, vous parlez sérieusement ?»«
Très sérieusement. »
« Abétique est avec moi depuis l'époque où votre arrière-arrière-grand-mère se désolait de ne pas voir encore pousser ses nichons. »
fit le poète d'une voix éraillée. Il abattit si fort sa main squelettique sur la table que je m'attendis à voir voler les osselets.
« Abétique !»
lança-t-il brusquement.
« Désirez-vous partir avec lui ? »
L'homme à la peau bleue inclina la tête sans la tourner.
« Bordel !»
s'exclama le poète.
« Prenez-le donc! Vous voulez emporter autre chose, Roland Dimion? Mon lit flottant, peut-être? Ou mon respirateur? Ou mes dents ?»
Rien d'autre.
« Vous acceptez donc, »
reprit-il d'une voix solennelle,
« d'accomplir cette mission jusqu'au bout, de sauver, servir et protéger l'enfant aîné jusqu'à ce que son destin se réalise, ou de mourir en essayant. »
« J'accepte. » Il leva sa coupe de champagne et je l'imitai. Trop tard, je me dis que l'androïde aurait pu boire avec nous, mais le poète était déjà en train de porter un toast.
« À la folie !»
dit-il.
« À la divine folie, aux quêtes insensées et aux messies qui pleurent dans le désert, à la mort des tyrans, et que nos ennemis soient confondus. »
Je commençais à porter la coupe à mes lèvres, mais le vieillard n'avait pas encore fini.
« Ô héros, »
dit-il,
« ô héros qui vont chez le coiffeur. »
Il vida sa coupe d'un trait. « Et moi aussi. » Chapitre 9. Régénéré, voyant littéralement le monde avec les yeux émerveillés d'un enfant qui vient de naître, le capitaine Federico de Soya traverse la place Saint-Pierre par les élégantes arcades de Bernin et s'approche de la basilique. Il fait une journée magnifique. La lumière du soleil est froide, le ciel est d'un bleu très pâle et l'air est vif. Le seul continent habitable de Passem est élevé à 1500 mètres au-dessus du niveau standard de la mer et l'air est très peu dense mais absurdement riche en oxygène. Tout ce que voit de Soya est baigné de cette riche lumière de fin d'après-midi qui crée une aura spéciale autour des majestueuses colonnes et autour des têtes des passants qui se pressent. Cette même lumière entoure d'un halo blanc les statues de marbre et fait ressortir l'éclat des robes rouges des évêques, ainsi que les rayures bleues, rouges et orangées des uniformes des gardes suisses en faction. Elle colore l'obélisque du centre de la place et les pilastres cannelés de la basilique. Elle part le grand dôme d'une brillance sans égale qui s'élève à plus de 100 mètres du sol. Les pigeons, en prenant leur essor, capturent cette riche lumière horizontale et tournent au-dessus de la place en montrant leurs ailes tantôt blanches contre le ciel et tantôt noires contre le dôme lumineux. La foule avance de part et d'autre de la basilique. Simple curé en soutane noire à boutons roses, évêque en blanc à garniture rouge, cardinaux en robe de sang écarlate et pourpre foncé, citoyens vaticanais en pourpoint d'un noir d'encre, bas noir et fraises blanches, nonnes en habits froufroutants et cornettes déployées comme des ailes de mouette, ecclésiastiques mâles et femelles en noir tout simple, officiers de la Pax en uniforme d'apparat écarlate et noir, semblable à celui que porte aujourd'hui de Soya, plus une multitude éparpillée d'heureux touristes ou d'hôtes de marque appelés à assister à la messe papale et revêtus de leurs plus beaux atours, généralement noirs, mais d'une richesse de texture qui fait briller et miroiter au soleil la fibre la plus mate. Et toute cette foule se dirige vers la haute basilique de Saint-Pierre en échangeant des propos à voix basse, d'une démarche excitée mais sombre. Une messe papale n'est pas un événement à prendre à la légère. Aux côtés du père capitaine de Soya, aujourd'hui, soit 4 jours à peine après son départ fatal et précipité du corps expéditionnaire mage, et 1 jour seulement après sa résurrection, on peut voir le père Baggio, le capitaine Margaret Wu et Monseigneur Luca Audi. Baggio, rondouillard et comique, est le chapelain de résurrection du capitaine. Wu, maigre et taciturne, est l'aide de camp de l'amiral de la flotte Marusine. Et Audi, âgé de 87 années standard, mais toujours alerte et en bonne santé, est l'homme à tout faire et le sous-secrétaire du puissant secrétaire d'État du Vatican, Simon Agostino, le cardinal de Lourdes Ami. On dit que le cardinal est le deuxième personnage de la Pax, le seul membre de la curie romaine à avoir l'oreille de sa sainteté. On dit aussi que c'est un personnage terriblement brillant. Son pouvoir est attesté par le fait qu'il joue aussi le rôle de préfet de la Sacra Congregatio Pro Gentium Evangelizzazione Sede Propaganda Fide, la légendaire Congrégation pour l'évangélisation des peuples, ou De propaganda fide. Pour le père capitaine de Soya, la présence de ces deux puissants personnages n'est pas plus surprenante que la lumière qui baigne la façade au-dessus de lui, tandis que les quatre arrivants gravissent le large escalier de la basilique. La foule, déjà très calme, devient totalement silencieuse tandis qu'ils s'avancent sur le grand espace libre, passent devant les gardes suisses en costume d'apparat et de combat, puis pénètrent dans la nef. Là, même le silence résonne, et De Soya se sent ému jusqu'aux larmes par la beauté de cette vaste perspective et par les œuvres d'art intemporelles devant lesquelles ils passent pour aller rejoindre leur banc. La Pietà de Michel-Ange, visible dans la première chapelle sur leur droite. Le bronze antique de Saint-Pierre, d'Arnolfo di Cambrio, au pied droit si poli qu'on dirait qu'il a été usé par des siècles de baisers, et aussi, brillamment éclairé d'en dessous, l'étonnante statue de Giuliana Falconieri Santa Vergine, sculptée par Piero Campi au XVIe siècle, plus d'un millénaire et demi auparavant. Le père capitaine de Soya pleure ouvertement au moment où il se signe avec de l'eau bénite et suit le père Baggio jusqu'au banc qui leur est réservé. Les trois prêtres et la femme officier de la Pax s'agenouillent pour prier, tandis que les derniers toussotements et frottements de pieds s'éteignent dans le grand édifice. Il fait presque nuit, à présent, à l'intérieur de la basilique. Seuls quelques spots halogènes éclairent des trésors artistiques et architecturaux qui brillent comme de l'or. À travers ses larmes, De Soya regarde les pilastres cannelés et les sombres colonnes baroques en bronze du baldaquin de Bernin, cette énorme dais ouvragée et dorée qui surmonte l'autel principal, où seul le pape a le droit de dire la messe. En même temps, il contemple le miracle de sa résurrection de 24 heures. Il a éprouvé de la douleur et une grande confusion, comme s'il se relevait d'un grand coup sur la tête qui l'aurait particulièrement désorienté. La douleur était plus forte et plus généralisée que n'importe quelle migraine, comme si chaque cellule de son corps se rappelait l'indignité de sa mort et se révoltait contre un tel sort. Mais il y a eu aussi le miracle. Le miracle et l'émerveillement devant le plus petit détail. La saveur du bouillon que lui avait fait prendre le père Baggio à son réveil, le spectacle de Passem pour la première fois, avec son ciel bleu pâle entrevu à travers la fenêtre du presbytère, l'humanité écrasante des visages qu'il a vus pendant tout le reste de la journée, les voix qu'il a entendues. Le père capitaine de Soya, bien qu'il soit un homme sensible, n'a pas eu l'occasion de pleurer depuis l'âge de 5 ou 6 années standard. Mais il pleure abondamment aujourd'hui. Il pleure ouvertement et sans honte. Jésus-Christ lui a fait le don de la vie pour la seconde fois. Notre Seigneur a partagé le sacrement de la résurrection avec lui. Modeste et loyal honnête homme, issu d'une famille pauvre, sur un monde reculé, et chaque cellule de son corps semble à présent se souvenir du sacrement de la régénération en même temps que des affres de la mort. Et il est imprégné de joie. La messe débute par une explosion de gloire. Les accords des trompettes lacèrent le silence attentif comme autant de lames d'airain, les chorales font entendre leur voix triomphante, les notes ascendantes des orgues se réverbèrent dans la vaste nef, et des lumières brillantes, les unes après les autres, s'allument pour éclairer le pape et son cortège qui viennent célébrer la messe. La première chose qui frappe De Soya, c'est la jeunesse du Saint-Père. Le pape Jules XIV, naturellement, a tout juste la soixantaine, malgré le fait qu'il est souverain pontife, pratiquement sans interruption, depuis plus de 250 ans. Son règne n'a été interrompu que par sa propre mort et sa régénérescence, par 8 fois suivi d'un couronnement, tout d'abord sous le nom de Jules VI, après le règne de 8 ans de l'antipape Téliard Ier, puis sous le nom de Jules VII, et ainsi de suite, à l'occasion de chaque incarnation subséquente. Tandis que De Soya contemple le Saint-Père en train de célébrer la messe, le capitaine de la Pax songe à l'histoire de sa filiation, selon la version officielle de l'Église et selon les cantos mis à l'index que chaque adolescent instruit lit au péril de son âme, mais lit quand même. Dans les deux versions, le pape Jules était, avant sa première résurrection, un jeune homme nommé Lennart Hoyt, venu à la prêtrise dans le sillage de Paul Duré, cet archéologue théologien jésuite et charismatique. Duré était l'apôtre de l'enseignement de saint Teilhard, selon lequel l'humanité possédait la potentialité d'évoluer vers la divinité. En fait, d'après Duré, quand il accéda au trône de Saint-Pierre après la chute, les humains pouvaient devenir des divinités. Et c'est précisément cette hérésie que le père Lennart Hoyt, devenu pape sous le nom de Jules VI, s'était appliqué à combattre après sa première résurrection. Les deux versions, celle de l'Église et celle des Cantos à l'index, s'accordent pour dire que c'est le père Duré, lors de son exil dans les confins sur le mont d'Hyperion, qui a découvert le symbiote nommé cruciforme. Mais là, les deux récits divergent de manière irréparable. D'après le poème, Duré a reçu le cruciforme de la créature monstrueuse appelée le Gritch. D'après la version officielle, le Gritch, émanation de Satan s'il en fut jamais une, n'a rien à voir avec la découverte du cruciforme, mais a soumis plus tard le père Duré et le père Hoyt à la tentation. Selon la version de l'Église, seul Duré a succombé à la perfidie du monstre. Mais les Cantos racontent, à leur manière confuse où la mythologie païenne rivalise avec les réalités historiques embrouillées, comment Duré s'est volontairement crucifié dans les forêts des flammes du plateau du Pignon d'Hyperion pour ne pas rapporter le cruciforme à l'Église. D'après le poète païen Martin Silenus, il fit cela uniquement pour éviter qu'elle ne tombe sous la dépendance d'un parasite qui aurait remplacé la foi. À en croire la version de l'Église, à laquelle adhère De Soya, Duré s'est crucifié pour soulager la douleur que lui causait le symbiote et, de connivence avec le satanique Gritch, pour empêcher l'Église, devenue son ennemi après l'avoir excommunié pour falsification de documents archéologiques, de retrouver sa vitalité à travers la découverte du sacrement de la résurrection. Les deux histoires concordent, en tout cas, pour établir que le père Lennart Hoyt a fait le voyage sur Hyperion afin de retrouver son ami et ex-maître à penser. D'après les blasphématoires Cantos, Hoyt a accepté le cruciforme de Duré en plus du sien, mais il est plus tard retourné sur Hyperion, juste avant la chute, pour supplier le monstrueux Gritch de le soulager de son fardeau. L'Église fait ressortir la fausseté de ces allégations en arguant que le père Hoyt, au contraire, a fait preuve d'un extraordinaire courage en retournant affronter le démon dans son antre. Mais quelle que soit l'interprétation des faits, il est établi que Hoyt trouva la mort pendant ce dernier pèlerinage sur Hyperion et que Duré fut ressuscité porteur de deux cruciformes, celui de Hoyt et le sien, avant de refaire son apparition durant la période troublée de la chute pour devenir le premier anti-pape de toute l'histoire moderne. Ces 9 années standards d'hérésie sous le nom de Teilhard Ier ne firent rien pour rehausser le prestige de l'Église. Mais après la mort du faux pape par accident, la résurrection de Lennart Hoyt à partir du corps partagé conduisit à la gloire de Jules VI, à la découverte de la nature sacramentelle de ce que Duré avait appelé un parasite, et à la révélation divine qu'avait eue Jules, uniquement partagée, encore aujourd'hui, par quelques rares personnes de la hiérarchie ecclésiastique, sur la manière dont les résurrections pouvaient être réalisées avec succès. Grâce à cela, l'Église passa du statut de secte mineure à celui de foi officielle de toute l'humanité. Le père capitaine De Soya observe le pape, un petit homme maigre d'une pâleur incroyable, tandis qu'il lève l'Eucharistie au-dessus de l'autel. L'officier commandant de la Pax frissonne de pur émerveillement. Le père Baggio lui a expliqué que les sensations intenses qu'il éprouve sont des effets secondaires de sa résurrection et qu'elles disparaîtront progressivement au bout de quelques semaines, mais que l'impression de bien-être qui les accompagne demeurera et gagnera même de la force à chaque résurrection dans le Christ. De Soya comprend pourquoi l'Église considère toujours le suicide comme un péché très grave, puni d'excommunication immédiate. La sensation de proximité divine est si forte après la résurrection qu'elle pourrait aisément créer une accoutumance si le châtiment n'était pas dissuasif. Encore tout endolori par sa mort et sa régénérescence, son esprit et ses sens littéralement en proie à un vertigineux tourbillon, le père capitaine de Soya voit la messe papale se rapprocher peu à peu de l'apogée de la communion. La basilique de Saint-Pierre est à présent remplie de la même rumeur glorieuse que lorsque le service divin a commencé. À l'idée que, dans un moment, il va goûter au corps et au sang du Christ transsubstantié par le Saint-Père lui-même, le soldat se met à pleurer comme un petit enfant. Après la messe, dans la fraîcheur du soir, sous un ciel de porcelaine pâle, le père capitaine de Soya se promène avec ses nouveaux amis dans l'ombre des jardins du Vatican.
« Federico, lui dit le père Baggio, la réunion à laquelle nous allons participer est d'une très très grande importance. Avez-vous l'esprit assez clair pour suivre ce qui va se passer ?»«
Oui, répond de Soya, j'ai l'esprit parfaitement clair. »
Monsignor Luca Audi touche l'épaule du jeune officier de la Pax.
« Federico, mon fils, en êtes-vous certain? Nous pouvons attendre encore un jour, s'il le faut. »
De Soya secoue la tête. Il est encore tout émerveillé par la beauté et la solennité de la messe à laquelle il vient d'assister. Sur sa langue, il y a la perfection de l'Eucharistie et du vin. Il sent que le Christ, en ce moment même, est en train de lui chuchoter quelque chose, mais ses pensées sont claires.
« Je suis prêt, » dit-il.
Le capitaine Wu est une ombre silencieuse derrière Audi.
« Très bien, »
déclare le Monsignor en hochant la tête à l'adresse du père Baggio.
« Nous n'avons plus besoin de vos services, je vous remercie. »
Baggio s'incline et se retire sans un mot. Dans la parfaite clarté de ses pensées, De Soya comprend qu'il ne reverra plus jamais ce brave chapelain de résurrection et un élan d'amour lui fait monter les larmes aux yeux. Heureusement que l'ombre cache son émoi. Il sait qu'il doit avoir une parfaite maîtrise de lui-même pour cette réunion importante. Il se demande où elle va se tenir. Dans le fabuleux appartement des Borgia? Dans la chapelle Sixtine? Dans les bureaux du Saint-Siège? Peut-être dans les locaux de la Pax, aménagés dans ce que l'on appelait autrefois la tour des Borgia. Monsignor Luca Audi s'immobilise à l'autre extrémité du jardin et fait signe aux autres de s'avancer jusqu'à un banc de pierre où quelqu'un les attend. Le père capitaine de Soya s'avise soudain que l'homme assis sur le banc est le cardinal Lourdus Ami et que l'entretien va se dérouler ici, dans ces jardins parfumés. Le prêtre met un genou sur le gravier devant le Monsignor et baise l'anneau de sa main tendue.
« Relevez-vous, »
lui dit le cardinal Lourdus Ami. C'est un homme corpulent, au visage rond, avec des bajoues épaisses. Sa voix grave sonne aux oreilles de De Soya comme la voix de Dieu.
« Asseyez-vous, » lui dit le cardinal.
De Soya s'assoit sur le banc de pierre pendant que les autres restent debout. À la gauche du cardinal, un autre homme est assis dans l'ombre. De Soya ne l'avait pas vu avant. Il porte un uniforme qui doit être celui de la Pax, mais la lumière trop faible ne permet de distinguer aucun autre signe distinctif. Ses yeux s'accoutumant à la pénombre, il aperçoit vaguement d'autres silhouettes qui se tiennent dans l'obscurité d'un massif voisin sur leur gauche. Elles sont debout, à l'exception d'une personne au moins.
Père De Soya.
Murmure le cardinal Lourdus Ami en tournant la tête vers l'homme assis sur le banc à sa gauche.
« Permettez-moi de vous présenter l'amiral William Lee Marusin. »
De Soya est sur ses pieds d'un bond, au garde-à-vous.
« Pardonnez-moi, amiral, »
réussit-il à articuler entre ses mâchoires rigides.
« Je ne vous avais pas reconnu. »«
Repos !» lui dit Marusin. « Restez assis, capitaine De Soya. »
Il se rassoit au bord du banc comme sur des œufs. L'identité des deux personnages qui l'encadrent le brûle comme un soleil à travers les brumes joyeuses de sa résurrection.
« Nous sommes très contents de vous, capitaine De Soya, »
lui dit l'amiral Marusin.
« Merci, amiral, »
bredouille le prêtre. Il scrute les ombres du massif où il a le sentiment que les autres ne perdent rien de cette conversation.
Nous aussi, nous sommes très contents de vous. »
fait le cardinal Lourdussamy de sa voix grave et rocailleuse.
« C'est la raison qui fait que nous vous avons choisi pour cette mission. »
« Une mission, votre éminence ?» demande de Soya.
Il se sent de nouveau ivre de tension et de confusion. « Comme par le passé, vous servirez à la fois l'Église et la Pax, » lui dit l'amiral en se penchant vers lui dans la pénombre. Le monde de Passem ne possède pas de lune, mais la lumière des étoiles est relativement forte. Quelque part, une cloche appelle les moines aux vêpres, et les lumières des bâtiments du Vatican entourent le dôme de Saint-Pierre d'un faible halo.
« Et comme par le passé, »
continue le cardinal,
« vous répondrez à la fois devant l'autorité militaire et la hiérarchie ecclésiastique. »
Le corpulent personnage s'interrompt pour regarder l'amiral.
« Quelle sera ma mission, votre éminence, amiral ?» interroge de Soya, ne sachant auquel des deux s'adresser en premier.
Marucine est son supérieur hiérarchique ultime, mais les officiers de la Pax prennent généralement leurs ordres des hauts personnages de l'Église. Aucun des deux ne lui répond cependant. Marucine fait un signe de tête au capitaine Margaret Wu, qui se tient à quelques mètres d'eux contre une haie. L'officier de la Pax s'avance et tend un cube au lot à de Soya.
« Activez-le !» lui dit l'amiral.
De Soya touche le dessous du petit bloc de céramique. L'image d'une fillette se forme au-dessus du cube. De Soya fait tourner l'image. Il note les cheveux noirs, les grands yeux et le regard intense de l'enfant, dont le cou et la tête sans corps constituent le point le plus lumineux des jardins du Vatican. Puis il relève la tête et voit briller la lumière du cube holo dans les yeux du cardinal et de l'amiral.
Elle s'appelle... Nous ne sommes pas sûrs de savoir comment elle s'appelle,
murmure le cardinal Lourdussamy.
Quel âge vous semble-t-elle avoir, père de Soya?
Il regarde de nouveau l'image, évalue son âge et fait une rapide conversion en années standard.
Une douzaine d'années, peut-être, dit-il. Peut-être 11 années standard.
Il n'a pas beaucoup côtoyé d'enfants depuis qu'il a cessé d'en être un lui-même.
Le cardinal hoche la tête. Elle avait 11 ans, selon le calendrier d'Hyperion, quand elle a disparu il y a un peu plus de 260 années standard, père de Soya.
Ce dernier regarde de nouveau l'image holo. Cela signifie que l'enfant est probablement morte à l'heure actuelle. Il ne se rappelle pas si la Pax avait déjà apporté le sacrement de la résurrection sur Hyperion il y a 277 ans. Elle a peut-être été régénérée après sa mort. Il se demande pourquoi il lui montre un enregistrement holo de cette personne sous l'aspect d'un enfant qui a vécu il y a des siècles plus tôt.
« C'est la fille de Brown Lamia, » lui dit l'amiral. « Ce nom évoque-t-il quelque chose pour vous, père de Soya ?»
Le nom ne lui est pas inconnu, effectivement, mais il a du mal, l'espace d'un instant, à se rappeler qui c'est. Puis les vers des Cantos lui reviennent à l'esprit, et il se remémore que Brown Lamia faisait partie des pèlerins de cette histoire.
« Je me souviens, » dit-il. « Elle accompagnait sa sainteté lors du dernier pèlerinage avant la chute. »
Le cardinal Lourdussamy se penche en avant et noue ses grosses mains potelées sur ses genoux. Sa robe brille d'un rouge vif à l'endroit où la lumière du cube holo l'éclaire.
Brown Lamia a eu des relations sexuelles avec une abomination,
fait le cardinal de sa voix grave.
Un cybride, un assemblage humain cloné dont l'esprit était une intelligence artificielle, résidant dans le technocentre. Vous souvenez-vous de l'histoire et du poème à l'index?
Le père de Soya bat des paupières. Est-il possible qu'il l'ait fait venir ici, au Vatican, pour le punir d'avoir lu les Cantos quand il était enfant? Il y a 20 ans qu'il a confessé ce péché et fait pénitence. Il n'a jamais relu depuis l'ouvrage interdit. Il rougit. Le cardinal s'esclave doucement.
« Ne vous inquiétez pas, mon fils. Tout le monde dans l'Église a commis ce péché-là, La curiosité est trop forte, l'attrait de ce qui est interdit est trop puissant. Nous avons tous lu le poème à l'index. Vous rappelez-vous que cette femme, Lamia, a eu des relations charnelles avec le cybride de John Keats?
Vaguement, fait de Sawyer. Puis il s'empresse d'ajouter « Votre éminence ».
Et savez-vous qui était John Keats, mon fils?
Non, votre éminence.
C'était un poète pré-égyrien, fait le cardinal de sa voix grasseyante.
Au-dessus de leur tête, les traînées de décélération bleu plasma de trois vaisseaux de descente de la Pax s'inscrivent dans le champ étoilé. Le père capitaine de Soya n'a besoin que d'un coup d'œil pour reconnaître leur classe et leur armement. Il n'est pas surpris de n'avoir pas retenu le nom du poète des Cantos qu'il lisait quand il était enfant. Déjà, il était plus intéressé par les vaisseaux et les batailles spatiales que par les récits de l'époque pré-égyrienne, en particulier quand ils étaient en vers.
Non seulement l'héroïne du poème blasphématoire, Brown Lamia, a eu des relations sexuelles avec cette abomination cybride,
reprend le cardinal,
mais elle a donné un enfant à cette créature.
De Soya hausse les sourcils.
J'ignorais que les cybrides... Je ne savais pas que... Enfin...
Le cardinal Lourdussamy laisse entendre un gloussement.
Vous pensiez qu'ils étaient stériles, comme les androïdes? Non. Ce sont les obscénités IA qui ont cloné l'homme et il a imprégné cette fille d'Ève.
De Soya hoche lentement la tête. En ce qui le concerne, le cardinal pourrait aussi bien parler de griffons et de licornes que de cybrides et d'androïdes. Ces créatures ont peut-être existé jadis, mais aucune, à sa connaissance, ne peut plus être en vie aujourd'hui. Les pensées défilent dans sa tête à toute allure. Il essaie d'imaginer en quoi toutes ces histoires de poètes morts, de fillettes, d'abominations et de femmes enceintes peuvent bien le concerner. Comme pour répondre à ces questions muettes, l'amiral Marusine déclare « La fillette dont l'image flotte en ce moment devant vous est cette même enfant, capitaine. Après la destruction de l'abomination cybride, Brown Lamia a donné naissance à cette créature sur Hyperion. »
Elle n'était pas entièrement humaine,
chuchote le cardinal Lourdussamy.
Bien que le corps de son père, le cybride de Keats, ait été détruit, sa personnalité IA a été enregistrée dans une dérivation en boucle de Schrön.
L'amiral Marusine se penche à son tour vers eux pour murmurer, comme si cette information ne devait être entendue par personne d'autre.
Nous pensons que l'enfant a communiqué, avant même de venir au monde, avec la personnalité Keats enfermée dans la boucle de Schrön. Nous sommes à peu près certains que le fœtus était en contact avec le technocentre par l'intermédiaire de la personnalité cybride.
De Soya éprouve, mais ignore le besoin de se signer. Toutes ses lectures, toute son éducation lui ont inculqué l'idée que le technocentre était l'incarnation du mal dans toute son horreur, la manifestation la plus active du malin dans toute l'histoire moderne de l'humanité. La destruction du technocentre a marqué le salut non seulement de l'Église vulnérable, mais aussi de l'humanité elle-même. De Soya essaie d'imaginer ce qu'une âme humaine, qui n'est pas encore née, peut apprendre au contact de ces intelligences sans corps et sans âme.
Cette enfant est dangereuse,
murmure le cardinal Lourdussamy.
Même si le technocentre a été neutralisé par l'abolition des distances, même si l'Église ne permet plus aux machines sans âme de posséder une véritable intelligence, cet enfant a été programmé pour devenir l'agent de ces IA déchus, et celui du malin.
De Soya se frotte la joue. Il se sent soudain extrêmement las.
Vous parlez d'elle comme si elle était toujours vivante, dit-il d'une voix très basse. Et comme si elle avait toujours 11 ans,
ajoute-t-il. Les robes du cardinal Lourdussamy laissent entendre un bruit de froissement tandis qu'il change de position sur le banc. D'une voix solennelle de baryton, il réplique
« Elle vit. Et elle a toujours 11 ans. »
De Soya regarde de nouveau l'image holo qui flotte entre eux. Il touche le cube et la représentation s'éteint.
« Stockage cryotechnique ? » demande-t-il.
« Sur Hyperion, il y a les tombeaux du temps, » grasseille Lourdussamy. « L'un d'eux, qu'on appelle le Sphinx, et dont vous vous souvenez peut-être pour l'avoir vu mentionné dans le poème ou dans les différentes histoires de l'Église, a été utilisé comme un portail permettant de voyager à travers le temps. Nul ne sait de quelle manière il fonctionne. Pour la plupart des gens, il ne fonctionne pas du tout. »
Le cardinal jette un coup d'œil à l'amiral, puis reporte son attention sur le prêtre capitaine.
« La fillette a disparu à l'intérieur du Sphinx il y a 264 années standard. Nous savions déjà, à l'époque, qu'elle représentait un grand danger pour la Pax, mais nous sommes arrivés plusieurs jours en retard. Or, nous détenons des informations sûres, selon lesquelles elle émergera du tombeau dans moins d'un mois standard, toujours âgée de 11 ans et toujours mortellement dangereuse pour la Pax. »
« Dangereuse pour la Pax »,
répète De Soya qui n'y comprend vraiment rien.
« Sa sainteté avait prévu le danger »,
continue le cardinal de sa grosse voix.
« Il y a près de 3 siècles, le Seigneur a jugé bon de lui révéler la menace représentée par cette pauvre enfant. Aujourd'hui, sa sainteté a décidé de faire face au danger. »
« Je suis un peu perdu. »
À vous de Soya. Le cube holo est désactivé, mais il a toujours en tête le visage innocent de l'enfant.
Comment cette petite fille peut-elle représenter un si grand danger, à notre époque ou dans le passé ?
Demande-t-il. Le cardinal lui prend le bras pour y exercer une légère pression.
En tant qu'agent du technocentre, elle sera comme un virus introduit dans le corps du Christ. Il a été révélé à sa sainteté que cette petite fille aura des pouvoirs qui ne sont pas humains. L'un d'eux lui permettra de persuader les fidèles d'abandonner la lumière de l'enseignement de Dieu et de renoncer à leur salut pour se mettre au service du malin.
De Soya hoche la tête, mais il ne comprend toujours pas. Son bras, sous la pression des doigts puissants du cardinal, lui fait mal.
« Qu'attendez-vous de moi, votre éminence ? » demande-t-il.
L'amiral Marucine répond d'une voix sonore qui fait sursauter De Soya après tous les chuchotements et messes basses qui ont précédé.
« Jusqu'à nouvel ordre, père capitaine De Soya, vous êtes détaché de vos fonctions au service de la flotte. À partir d'aujourd'hui, votre mission consiste à retrouver cet enfant, cette fillette. » et à la conduire au Vatican. »
Le cardinal perçoit une lueur d'anxiété dans le regard du père de Soya et murmure d'une voix onctueuse
« Mon fils, vous avez peut-être peur qu'il ne soit fait du mal à cette petite fille. »
« Oui, votre éminence. »
répond de Soya en se demandant si cet aveu va le disqualifier aux yeux de son supérieur militaire. Lourdussamy relâche la pression sur son bras qui devient purement amical.
Soyez assuré, mon fils, que personne au Saint-Siège, personne dans toute la Pax, à vrai dire, n'a l'intention de lui nuire en quoi que ce soit. En vérité, les instructions du Saint-Père nous précisent, et vous précisent, que votre priorité numéro 2 doit être justement de veiller à ce qu'il ne lui arrive rien de fâcheux.
Votre priorité numéro 1 étant, naturellement, de la ramener ici, sur Passem, au Vatican, et de la remettre au haut commandement de la Pax,
précise Marucine.
Avez-vous bien compris ?
De Soya hoche la tête et déglutit.
La question qui lui occupe l'esprit est
« Pourquoi moi ?»
Mais à haute voix, il répond
« Oui, amiral. »
vous recevrez un disque papal de réquisition vous donnant autorité pour vous procurer toute l'aide et tous les équipements, personnels et facilités de communication qu'il sera possible de réunir. Avez-vous des questions sur ce point ?
Non, amiral, répond de Soya.
Sa voix est ferme, mais les pensées tournent dans sa tête à une vitesse folle. Un disque papal de réquisition lui donnera plus de pouvoir qu'un gouverneur planétaire de la Pax.
Vous vous translaterez aujourd'hui même dans le système d'Hyperion, continue l'amiral Marussin sur le même ton de commandement impérieux.
Capitaine Wu!
L'aide de camp militaire de la Pax s'avance et remet à De Soya un dossier rouge contenant le disque papal. Le père capitaine le prend, mais une voix hurle dans sa tête.
Aujourd'hui même, dans le système d'Hyperion, encore le vaisseau Archange, encore la mort, la douleur. Non. Tout Jésus ne me laisse pas boire à nouveau à cette coupe.
Vous aurez le commandement de notre vaisseau courrier le plus moderne et le plus équipé, lui dit l'amiral. C'est le même que celui qui vous a amené dans le système de Passem, à cette exception près qu'il peut emporter 6 personnes, qu'il possède un armement égal à celui de votre précédent vaisseau torche, et qu'il est équipé d'un dispositif de résurrection automatique.
Oui, amiral, fait de Soya. Un système de résurrection automatique ? Le sacrement administré par une machine ?
Le cardinal Lourdes-Samy lui tapote de nouveau le bras.
Le système robot est regrettable, mon fils, mais ce vaisseau vous conduira peut-être dans des lieux où la Pax et l'Église ne sont pas présentes. Nous ne pouvons pas vous refuser la résurrection simplement parce que vous serez hors de portée des serviteurs de Dieu.
Soyez certain, mon fils, que sa sainteté en personne a béni ce dispositif de résurrection et l'a investi des mêmes attributs sacramentels que ceux qu'une vraie messe de résurrection offrirait.
Merci, votre éminence, murmure de Soya. Mais je ne comprends pas. Ces lieux où l'Église n'est pas représentée, ne disiez-vous pas que je devais me rendre dans le système d'Hyperion ? Je n'y suis jamais allé, mais je croyais que ce monde était membre de...
Il fait bien partie de la Pax, interrompt l'amiral. Mais si vous ne réussissez pas à capturer, à sauver cette fillette, au cas où, pour une raison quelconque, vous seriez obligé de la suivre sur d'autres mondes, d'autres systèmes, nous avons jugé préférable, à votre intention, d'équiper le vaisseau d'une crèche de résurrection automatique.
De Soya incline la tête, soumis et confus.
Nous espérons cependant que vous trouverez l'enfant sur Hyperion, continue l'amiral Marussin. À votre arrivée sur ce monde, vous vous présenterez devant la commandante Bardzavni de la Force au sol. Vous lui montrerez votre disque papal. Elle est à la tête de la brigade des gardes suisses stationnés sur Hyperion. Vous prendrez le commandement effectif de ses troupes.
De Soya bat des paupières. Commandant d'une brigade de gardes suisses ? Je suis capitaine de vaisseau torche de la flotte. Je suis incapable de faire la différence entre une manœuvre au sol et une charge de cavalerie.
L'amiral Marussin laisse entendre un gloussement.
Nous sommes conscients que cela dépasse quelque peu vos compétences militaires, père capitaine de Soya. Mais soyez assuré que le statut de commandant des forces de la Pax vous est nécessaire. Bardzavni continuera d'assurer le commandement de ses troupes au jour le jour, mais il est impératif que toutes les ressources locales soient mises à votre disposition pour assurer le sauvetage de l'enfant.
De Soya se racle la gorge.
Qu'arrivera-t-il à... Vous dites que vous ne connaissez pas son nom. Je veux parler de l'enfant.
Avant sa disparition,
fait le cardinal Lourdes-Samy de sa voix grasseyante,
elle se faisait appeler aînée. Quant à son sort ultérieur, je vous assure de nouveau, mon fils, que nos intentions sont simplement de l'empêcher de contaminer le corps du Christ avec son virus, mais que nous obtiendrons ce résultat sans lui faire le moindre mal. En fait, notre mission, votre mission, père de Soya, aura pour résultat de sauver son âme immortelle.
Le Saint-Père y veillera personnellement. » Quelque chose dans la voix du cardinal indique à De Soya que l'entretien est terminé. Le père capitaine se lève, éprouvant les effets du décalage résurrectionnel comme un vertige à l'intérieur de son corps. « Et je dois mourir encore ce soir. » Il ressent à la fois une excitation joyeuse et une envie de pleurer. L'amiral Marucine s'est levé lui aussi. « Père capitaine De Soya, votre réaffectation provisoire ne prendra fin que lorsque l'enfant me sera apporté ici, au bureau de liaison militaire du Vatican. »
« Ce n'est l'affaire que de quelques semaines, nous en sommes certains. »
fait le cardinal de sa grosse voix sans se lever.
« C'est une terrible responsabilité qui vous est confiée, » reprend l'amiral. « Vous utiliserez chaque parcelle de votre foi et de vos capacités militaires pour satisfaire le désir exprimé par sa sainteté de mettre cet enfant à l'abri au Vatican avant que le virus destructeur de sa traîtrise programmée ne puisse se répandre parmi nos frères et nos sœurs devant le Christ. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, capitaine De Soya. »
Merci, bredouille le père capitaine. De nouveau, il se dit « Pourquoi moi ?» et s'agenouille pour baiser l'anneau du cardinal. Quand il se redresse, l'amiral a déjà disparu dans l'ombre du bosquet où les autres silhouettes sont demeurées immobiles pendant tout l'entretien. Monseigneur Luca Audi et le capitaine de la Pax Margaret Wu s'avancent pour l'encadrer et lui servir d'escorte quand il quitte le jardin. C'est alors que, l'esprit toujours vertigineux sous l'effet du choc et de la confusion, le cœur battant d'excitation et de terreur devant le déploiement de hautes personnalités venues ici uniquement pour lui, le père capitaine De Soya se retourne. Juste à ce moment-là, la traînée de plasma d'un vaisseau qui décolle illumine de sa lueur bleue pulsante le dôme de Saint-Pierre, les toits du Vatican et le jardin. L'espace d'une seconde, les silhouettes à l'abri du massif sont parfaitement visibles. Il y a là l'amiral Marucine qui tourne le dos à De Soya, de même que deux officiers de la garde suisse en armure de combat, leurs armes à fléchettes levées à hauteur de la hanche. Mais c'est la silhouette assise qui retient l'attention du père capitaine et qui entra ses pensées et ses rêves durant de nombreuses années à venir. Sur le banc de pierre du jardin, le regard triste fixé sur De Soya, les sourcils froncés et la mine lugubre éclairée brièvement, mais de manière indélébile, par la lumière bleue du plasma, se trouve sa sainteté, le pape Jules XIV. Souverain pontife de plus de 600 milliards de catholiques, dirigeant de facto de 400 milliards d'autres âmes dispersées jusque dans les régions les plus lointaines de la Pax. L'homme qui vient de lancer Federico De Soya dans sa fatidique expédition.